Camarade gamer, c'est Creepers.
Camarade mélomane, c'est Rhône.
Et bienvenue pour ce début de saison 2 de ouf.
Wouhou
de la Beatbox. Alors autant vous dire qu'on est super content, maxi content, ultra content
c'est
d'être
vrai.
Là. Alors, on s'est bien reposé, hein, on est bien. Alors le bronzage commence à partir, je suis un petit peu dégoûté par contre. Hein.
Un petit peu le maillot encore.
Et, ah bien, ça c'est bien, monsieur bronze tout nu, c'est génial. Alors ouais, moi je suis super en forme, je suis ultra content d'être de retour sur les ondes pour partager notre amour pour la musique de jeux vidéo. Alors j'espère que t'as la pêche, camarade.
Mais carrément, et je suis hyper content de te retrouver, de retrouver les auditeurs et d'être en pleine forme pour une nouvelle saison de la Beatbox. On a écouté plein de choses, on a préparé des tas de morceaux, on a des tas d'idées, il y aura même une petite nouveauté pendant l'émission, vous allez voir, ça va déboîter.
Ouais, autant vous dire qu'on vous lâchera pas, on a plein de choses dans nos besaces pour s'amuser pendant des siècles et des siècles. Et alors par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, donc là c'est la fin des vacances forcément, donc
ouais.
C'est le retour au travail et donc on va retrouver les boss.
Et voilà, c'est le sujet de rentrée, les boss. Vous savez, après des efforts parfois incommensurables, dans tous les jeux du monde arrive le moment. Paroxysme du niveau, voire du jeu en entier, l'affrontement contre le boss.
Le big boss.
Et au niveau de la musique, c'est aussi le moment où il faut pas se louper, car le combat final, c'est souvent ce qui reste dans toutes les mémoires. En étant l'aboutissement du jeu, la finalité, là où enfin on va pouvoir poser la manette fier de nous. On doit donc ressentir la pression, le danger, l'urgence de la situation, ainsi si possible qu'un souffle épique sur la performance qu'on va réaliser.
La Beatbox saison 2 épisode 1, c'est parti!
Et pour commencer, on va aller faire un petit tour dans le passé. En 1987, c'est R-Type, le shoot de Irem, je crois, parce que naturellement, je n'ai pas préparé ça.
Oh, le naze.
Oui, je sais. J'avais dit que j'avais eu la patate, j'ai juste eu ce petit oubli, là.
Je crois que tu ne te trompes pas.
Alors, c'est vrai que c'est un shoot absolument légendaire et franchement hyper difficile. Moi, c'est sur Atari ST que j'y ai joué. C'est pour ça que c'est la version que je vous ai passée. Parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Quand je jouais à R-Type, j'étais plutôt un bon joueur de shoot'em up à cette époque. Et c'est le boss du premier niveau qu'on vient d'entendre. Et cette musique me glaçait le sang. Vraiment. C'est-à-dire que je perdais mes moyens. Et que bien que manipulant parfaitement mon petit module devant mon vaisseau et sachant qu'on peut le buter en à peu près 8 secondes, j'arrivais régulièrement à perdre contre ce premier boss, ce qui fait que j'avais tendance à passer le joystick à mon pote à côté pour qu'il me le passe, et ensuite je reprenais pour continuer. Voilà, c'est ça l'illustration d'une musique de boss réussie, c'est un truc qui te fait flipper. Et pour moi, ça marchait à fond avec R-Type. Alors voilà, c'était une sorte de petit apéritif. On va rester dans le shoot'em up avec du gros rock qui tâche.
We'll be right back.
On vient d'écouter la musique du boss final de Lords of Thunder, Shoot 'em Up, sorti en 1993 sur la Turbo Duo, la console de NEC, puis plus tard sur Sega CD, mais c'est la version NEC qu'on vient d'entendre parce que étrangement la musique est meilleure. Allez savoir pourquoi.
Ouais, ils ont vendu une fortune leur Sega CD, les salauds.
Ouais, enfin, fallait le trouver quand même, réussir à faire une version CD et la faire moins bien d'un CD à l'autre. Bon, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication.
Sega, c'est plus fort que toi, mon gars.
Ah, ça y est, les hostilités sont lancées.
C'est reparti.
Alors, en tout cas, Lords of Thunder, c'est un très bon shoot, et rien que le titre fait vaguement penser, ça pourrait être le titre d'un album de Metallica. Et la musique aussi. La bande son est absolument géniale. Toute la bande son, pas juste celle du boss final. Et sachez quand même que dans la vie, je n'écoute pas du tout de hard rock, c'est pas un truc qui me passionne.
C'est plus un pop.
Voilà, c'est ça. Mais sur un jeu de shoot, par contre, faut dire, ça le fait.
Ça fout la pression. Ah, ça vient.
Ça fout la pression. Et quand t'arrives au bout de ce jeu et que t'as cette musique qui se lance, franchement, là, tu sens que t'es dans un gros truc, dans un gros combat, et que si tu gagnes, ce sera toi le mec. Alors, on va changer de style avec une musique maintenant qui vient, je crois, de Metal Gear.
Je vais pas aller contre ça. Effectivement, le petit tacle est mérité, car effectivement, cette musique fait énormément penser à une musique d'un Metal Gear, d'un boss de Metal Gear. On peut aller vers le 2, vers le 3 ou vers le 4. Effectivement, il y a des sonorités qu'on retrouve un petit peu. Il y a des concordances, voilà. On va pas se le cacher, mais c'est normal, oui ou non, puisqu'on est dans une production Kojima. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est un jeu à la base Kojima, mais en fait, c'est produit par Kojima. C'est une musique de Zone of the Enders 2, donc Final Battle, et pas Final Countdown, comme diraient nos amis de chez Europe. Donc c'est commandé par une... Alors comme d'habitude chez Konami, par une tripotée de monde. Alors je vais en dire quelques-uns. Noriko Ibino, Maki Kiryoka, Akihiro Honda, Toshiryuka Kakuta et Tsuyoshi Kobori. J'ai réussi.
Une équipe de basket.
On est au taquet. Voilà, toute l'équipe est venue. Hein, l'équipe, les 11 de la team sont arrivés. Alors sur le global, c'est une musique... Je ne garde pas des grands souvenirs des musiques de Zone of the Enders. Mais sur cette musique-là, en tout cas, je trouve qu'elle, justement, elle fait partie de ces musiques de boss, bah, qui accompagnent bien le combat, qui foutent un petit peu la pression, ça joue un petit peu avec le suspense. Alors, c'est un peu, justement, l'adage des Metal Gear, hein, de jouer sur le suspense, mais c'est vrai que il y a un petit peu trop de ressemblance. J'ai percuté ça après avoir choisi la musique. D'ailleurs, je crois que tu l'avais mis dans le déroulé de notre émission. Et c'est vrai que ça fait partie de ces musiques, bah, voilà, on n'est pas vraiment étonné en l'écoutant, c'est quand même super agréable. Je me suis dit, on va commencer doucement dans ma sélection.
Oui, ça le fait.
Mais ça le fait plutôt bien et ça fait partie voilà des en plus des jeux que moi j'ai beaucoup aimé. Alors je suis pas un gros joueur de jeux de méca etc. Mais c'est vrai que quand est sorti le premier Zone of the Enders, forcément moi le nom de Kojima m'avait un petit peu interpellé parce que le mec faisait que des Metal Gear et il avait envie de produire des trucs un petit peu sympas. Et donc quand le 1 est sorti, il a fait son petit buzz, il a très bien marché, les gens ont crié pour avoir une suite. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé la suite, c'est du plus, mieux fichu, plus joli, plus rythmé, plus d'idées. Et donc maintenant les gens bah, pleurent pour un troisième jeu et on verra ce que ça donnera peut-être un petit peu plus tard parce que bien sûr Kojima tease depuis 10 ans je crois pour une suite donc ça arrivera sûrement un jour. Alors on va retourner un petit peu dans le shoot et je vais aller un petit peu sur Mega Drive. Ça envoie le pâté, hein?
Ça envoie le pâté.
Alors moi, Turrican, j'ai connu ça sur SNES. Et bizarrement, bah, je n'ai pas choisi de musique de Super Turrican parce que je trouve justement que les sonorités Mega Drive vont très bien avec ce type de musique. Et donc voilà, un Mega Turrican, Mega, bah, comme Mega Drive,
Mega Drive.
Il y a Super Turrican et il y a Mega Turrican.
Alors voilà, moi, j'y ai joué sur Atari ST, ça ne s'appelait pas Atarican. C'est...
Ou Jerrican, hein, jamais vous connaissez un pote Jerry qui joue à Turrican, c'est pas Jerrican. Elle était nulle. Alors donc c'est un mélange de plateforme et de shoot 'em up. Et donc c'est un classique du genre, hein. Turrican, c'est sorti sur à peu près tout, je crois. Il y a des versions Game Boy, des versions micro-ordinateur, des versions PC, des versions Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo, il y a un petit peu de tout. Et c'est composé par le grand Chris Hulsbeck, je sais jamais comment on prononce son nom de famille, donc qui est un compositeur allemand, bah, qu'on présente plus, hein, parce que le mec, il a fait énormément de titres cultes. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un petit revival autour de ses compositions. Et d'ailleurs, à la Gamescom, il était là, le monsieur. On pouvait acheter ses compos avec, bien sûr, hein, les signatures qui vont bien et tout ça. Alors, c'était un prix, à la fois accessible, mais pas vraiment. Ça dépend les bourses, hein, comme on dit. C'était entre 30 et 150 euros, je crois, en fonction des vinyles, etc. Et il a même fait un concert sur place. Alors, malheureusement, j'étais déjà parti. J'étais un petit peu tristesse. Mais donc, voilà, le monsieur est toujours, on va dire, dans la course et continue de faire des petits shows un peu partout. Et il y a régulièrement des rééditions de ses compositions. Et on peut même les trouver, d'ailleurs, je crois, sur Spotify. Si vous avez un compte, c'est toujours agréable à écouter. Ça donne la pêche. Voilà, donc c'était Turrican. Alors on va passer à autre chose, et c'est Rune qui va vous parler encore une fois d'un combat final.
Bah oui, vu le thème, on risque de parler assez souvent de combat final. Et c'est vrai que, à nouveau, c'est un combat final du jeu Shadowhearts 2, sorti en 2004 sur PS2. Alors, c'est une musique qui est composée par Yoshitaka Hirota, Yasunori Mitsuda et Kenji Ito. J'ai toujours beaucoup de mal à prononcer les noms, ce qui est un peu un scandale, parce que là, je viens de nommer trois personnes qui sont quand même des pointures de la zik japonaise, en particulier sur une flopée de jeux de rôle. Allez sur Google, vous allez voir que c'est des gens qui ont fait quand même énormément de choses. Alors, Shadowhearts 2, c'est un jeu qui est dans un monde de survival horror, mais qui se joue comme un ARPG.
Ce qui est original.
Ouais, oui, à la base, ouais. Ce qui est original, hein, ce qui fait que j'y ai joué, et pour être tout à fait honnête, j'y ai joué il y a vraiment pas longtemps, parce que je connaissais pas, je voulais l'essayer. Et alors, autant j'ai adoré les musiques, d'où ce choix, autant j'ai été hyper vite lassé par le chara-design qui... Alors, je vais me faire incendier, hein, mais que je trouve qu'il ressemble à énormément d'autres choses. J'ai pas non plus été très convaincu par le gameplay, enfin bon, voilà, c'est pas une critique de jeu, hein. Déjà rien qu'en disant ça, parce que je sais que le jeu a ses fans, je vais recevoir des lettres d'insultes.
On a l'habitude.
Ouais, on a l'habitude. Mais ce qui fait que je dois dire que je ne suis pas allé au bout du jeu, j'ai été assez vite lassé, alors j'ai dû aller écouter la musique séparément, je n'ai pas entendu la musique de la bataille finale pendant la bataille finale, mais je trouve qu'il y a des boîtes. Qui retranscrit bien ce qu'il y a dans le jeu, c'est des sonorités qui sont assez distordues par moments. Voilà, ça retranscrit bien cet univers entre action et survival horror. Donc pour ça, c'est raccord, ça marche bien, c'est quand même assez original. Il fallait que ce soit dans ce podcast aujourd'hui. Et alors, il y en a un autre qui devait absolument être là dans ce podcast spécial boss. C'est encore un combat final, et celui-là, je pense qu'il est dans la mémoire collective de beaucoup de gens. Est-ce que j'ai vraiment besoin de nommer le jeu dont on vient d'entendre
Sephira.
Le jeu Voilà. C'est Final Fantasy VII qu'on pouvait acheter en 1997 en une fois, sans épisode, sans rien du tout. C'était un jeu complet, c'était vachement bien. Et c'était une révolution à l'époque, parce que c'est la première fois que le jeu de rôle s'est vraiment invité en Occident, en bénéficiant d'une grosse campagne marketing. Les gens achetaient le jeu, ils savaient pas ce que c'était. Enfin,
moi, par exemple.
Ouais, bah...
J'adorais.
Bah ouais, mais c'était quand même un truc assez incroyable, et personnellement, c'est un de mes jeux de rôle préférés, donc je suis un vrai fan de Final Fantasy VII. Alors, les musiques sont composées par, à nouveau, des pointures, Nobuo Uematsu, ouais, qui est la légende de la musique Final Fantasy, on peut dire, et il faut dire qu'il a un palmarès qui est absolument démentiel, quoi.
Ah bah, c'est un peu le John Williams de la musique de jeux vidéo. Enfin, le mec, il a. Mais moi qui suis pas un gros joueur de RPG, j'écoute régulièrement ses BO parce que c'est juste formidable. On avait déjà passé du Blue Dragon. Je trouvais la musique était fabuleuse. Enfin, et la plupart des Final Fantasy, même en écoutant les versions 8 bits de l'époque, enfin, il arrivait à faire un thème sur avec presque rien.
Ouais, c'est ça.
C'est un grand monsieur.
Donc énormément de talent, quoi. Et alors cette musique, elle reste forcément gravée dans les têtes, déjà parce qu'il y a le Sephiroth, mais aussi parce que on l'a entendu cette musique, hein. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais alors la dernière bataille de Final Fantasy VII contre Sephiroth, mais c'était long.
Ah ouais, mais elle durait pas. Mais rien que, je crois que rien que tu te faisais une invocation, ça durait déjà 25 minutes.
Mais on était partagé en trois groupes, ça durait une éternité. Plus ça avançait, plus tu flippais, parce que tu dis si je meurs, faut que je recommence tout. Non, tu déconnes. Et donc, du coup, forcément, on la connaît très très bien cette musique, mais elle accompagnait formidablement bien la bataille. Alors, par contre, je dois dire que j'ai quelques réserves sur l'OST de Final Fantasy VII. Personnellement, je trouve que elle n'a pas super bien vieilli. Au moment de la sortie du jeu, il y avait eu un choix qui a été fait d'utiliser du son en MIDI directement pour gagner en puissance et permettre à la PlayStation d'afficher des plus jolis graphismes. Alors c'était un choix qui était tout à fait respectable. Mais cela étant, dans le temps, je trouve que ces mélodies ont pris un petit coup de vieux, ou plutôt ces sons ont pris un petit coup de vieux.
Bah, je pense que comme tu le dis, le fait d'être passé d'une musique, alors pas 8 bits mais 16 bits, etc., à de la musique MIDI, alors qu'il y a des versions après qu'on a entendu symphonique.
C'est ça.
Forcément, ça vieillit. C'est un peu comme même les musiques de Zelda. Si tu écoutes les versions symphoniques et que tu réécoutes les versions N64, d'office, ça prend un coup de vieux. Donc alors, ça fait partie.
Et là, je trouve ça particulièrement marqué, hein, parce que quand il y a des versions symphoniques de musique en 16 bits, par exemple, ben, je trouve que les 16 bits tiennent toujours la route parce qu'il y a un certain charme qui est là.
C'est comme les graphismes
qui fonctionnent.
C'est l'époque où le passage avec les consoles 3D plus CD mais pas vraiment orchestral, etc. C'est, tu prends un jeu de Super NES, techniquement t'arrives à y jouer parce que ça reste beau et c'est pas de la 3D, la première 3D. Par contre, tu prends tes premiers jeux PlayStation en 3D, bah
c'est
ça
dur,
pique,
hein,
un petit peu, quoi.
Ouais,
c'est plus dur, compliqué de relancer un premier Tekken qu'un Zelda 3, quoi.
Ouais, exactement, c'est tout, ouais, à fait ça. Alors pour en revenir à cette OST, je conseille quand même pour les quelques personnes qui la connaîtraient pas de l'écouter, mais autant le faire directement en version orchestrale, en version symphonique, parce que là on s'aperçoit que c'est surtout le MIDI qui ne rend pas grâce aux mélodies, parce qu'elles sont vraiment bien en dehors de ça. Donc voilà, c'était la petite réserve du jour sur mon propre choix, le mec qui se tire une balle dans le pied en quelque sorte, quoi, hein, c'est quand même assez étonnant. Et donc on va passer sur toute autre chose, nous allons nous envoler dans le ciel au milieu des nuages.
Retour chez Nintendo, la valeur sûre, le gameplay, mais aussi le plaisir de jouer. Ah oui, la guerre continue, Ron, ça ne s'arrêtera jamais. Kid Icarus Uprising Boss Fight 2, composé par Takahiro Nishi. Alors ça fait partie des licences que je ne connaissais pas à l'époque de Nintendo, parce que Nintendo, ils ont tendance parfois à faire des trucs bizarres avec leurs licences, ils en laissent mourir certaines, et ils en déterrent des vieilles de il y a je sais pas combien d'années. Et donc Kid Icarus était sorti sur NES à l'époque, si je ne raconte pas d'annerie, et donc il était de retour sur 3DS, et ma foi de fort belle manière, parce que le jeu techniquement était ultra solide, Il utilisait bien le système 3D, ce qui est voilà, assez rare hein, malheureusement sur ce type de console. Ah oui, il utilisait vraiment bien la 3D. Mais par contre, comme les premières 3DS étaient un petit peu limite au niveau de la stabilité de la 3D, ils avaient sorti avec un pied pour pouvoir poser ta console, alors ce qui pour une console portable n'est pas forcément évident. Mais ouais, c'est un jeu que j'ai pris énormément de plaisir à parcourir. Parce qu'il était assez original dans sa façon de mettre en place les niveaux, parce qu'il y avait deux styles de gameplay. Il y avait un système de gameplay un petit peu en rail shooting, vous savez, comme les Panzer Dragoon ou les trucs comme ça. Et une autre façon, beat'em all, où on pouvait se diriger dans les niveaux, affronter les boss, etc. Et donc ça fait partie vraiment des gros jeux de la 3DS qui avait permis de vendre un petit peu de machines et qui, techniquement, franchement, on n'avait pas à rougir par rapport à d'autres gros jeux qui sortaient. Et donc l'OST, bah forcément, on est sur du Nintendo et ils ont un peu des valeurs sûres en termes de composition. Et j'adore les musiques, et particulièrement cette musique-là qui est quand même ultra nerveuse et qui accompagne bien, je trouve, justement au niveau du suspense, le combat qui évolue au fur et à mesure. Donc voilà, moi j'adore cette musique et il fallait que je vous la partage. Voilà, c'est chose faite. Alors là, changement complet d'univers. Vous allez voir, c'est légèrement plus glauque. Allez, on enfile nos masques d'animaux et on va se taper sur la gueule à coups de batte. Alors maintenant que vous avez tous perdu 3 dixièmes à chaque oreille, parce qu'on vient quand même de vous passer une musique légèrement saturée, Ron, on peut dire ça.
Bon, on peut le dire. Ouais.
Donc c'était la musique Turf Main composée par El Huervo de Hotline Miami. Alors honnêtement, on a essayé de trouver la meilleure version possible, parce que moi de mémoire, forcément, jouant au jeu, on est tellement dedans qu'on se rend plus vraiment compte que c'est saturé à ce point-là. Mais malgré les sources, on a fait, je crois, au moins 5-6 sources différentes chacun, et on n'arrive pas à trouver de son moins cracra, parce qu'il semblerait vraiment que ça fasse partie du trip. Parce que pour ceux qui connaissent Hotline Miami, c'est voilà un délire visuellement assez cracra, assez rétro en pixel art, etc. Enfin voilà, il y a un univers assez crado. Et donc je pense vraiment que le choix de cette musique pour le combat final avait été bien choisi, parce que vous l'avez vu, hein, ça crachote un petit peu, donc ça fait partie un petit peu du charme, comme on dit. Et donc Hotline Miami, grosse claque pour moi. Je sais pas si tu y avais joué toi.
Bah non, je n'y ai jamais joué à Hotline Miami.
D'accord. Et ça fait partie des jeux indés qui ont un peu secoué justement l'univers du jeu vidéo quand c'est sorti. Ça a inspiré énormément de monde, alors que ça soit au niveau de l'univers, au niveau du système de jeu et au niveau de l'ambiance, puisque maintenant il y a énormément de jeux qui utilisent, d'ailleurs on en parlera un tout petit peu plus tard, il y a un jeu qui fait partie de ces titres qui utilisent justement des mélanges de compositeurs un petit peu Soundwave. Et donc ça réunit des stars de ce style de musique, donc il y avait Carpenter Brut, voilà, des choses que des grands compositeurs que moi j'adore, hein, j'adore ce style de musique. Et donc Hotline Miami pour moi c'est fait partie de ces jeux rares à notre époque qui marquent vraiment le jeu vidéo. Et ça a été créé par deux personnes, donc Jonathan Sonderstrom et Denis Wedin, qui ont fait bien sûr après Hotline Miami 2, qui est un petit peu plus divisé mais qui reste quand même hautement recommandable. Et donc voilà, c'est pour moi c'est culte de chez culte. Jouer à Hotline Miami, c'est trouvable un petit peu partout, hein. C'est sorti sur PS Vita, sorti sur PlayStation 4, sur PC, hein. Forcément, ça se trouve régulièrement à bas prix. Et voilà, c'était super important de mettre Hotline Miami, parce qu'au niveau des boss, voilà, ça fait partie, la fin du jeu est ultra cool. Il y a vraiment une montée en puissance dans ce titre-là qui nous fait arriver dans un délire de violence. C'est ultra malsain, hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, Hotline Miami.
Jouer à Hotline Miami, c'est violent et malsain.
Ah mais voilà, c'est ça. Si je devais résumer ça, en plus moi depuis je veux absolument avoir les mêmes masques pour me balader en ville et ma femme veut pas. Je crois qu'elle a raison, mais je suis pas sûr. Voilà, allez, il est temps de changer de registre et on repart sur une fantaisie finale.
Et oui, retour chez Final Fantasy, mais cette fois-ci, c'est l'épisode 4 que vous venez d'entendre avec, bien sûr, la bataille finale, comme bien entendu...
On aurait dû appeler ça le podcast des batailles finales.
Alors celui-là, il date de 1991, et devinez qui est le compositeur ?
Nobuo
Uematsu. Et oui, c'est encore lui qui est à la composition. Et en fait, j'adore cette musique, voilà, c'est tout simple, j'adore cette musique. Et j'irais même jusqu'à dire que je la préfère à celle qu'on a passée tout à l'heure de Final Fantasy VII, exactement pour les raisons dont on a un petit peu débattu, hein. Oui, on a un peu dérivé tout à l'heure, faut bien le reconnaître. C'est que le son de la Super NES, personnellement, je trouve qu'il traverse mieux le temps que le début des consoles CD avec un son MIDI. Et ça garde toute sa particularité à aujourd'hui. Ça, tout de suite, ça renvoie à une époque, ça renvoie à un type de jeu. Et il n'y a pas à dire, quand on est un gars comme Uematsu, on n'a pas besoin de grand-chose, on fait des compositions hyper efficaces. On sent la pression du boss, on est vraiment à la fin d'un jeu qui a été dur, qui a été long, hyper efficace, je vois pas d'autres termes, j'adore le travail de ce bonhomme-là.
Et d'ailleurs, tu l'aimes tellement, eh ben tu t'es pas fait chier, t'en remets une autre.
Eh ben ouais, finalement je me demande si ce podcast c'est pas un peu un spécial Nobuo Uematsu.
Ou alors t'es juste feignant.
Ou je suis juste feignant, j'en sais rien. Bon, au moins ça permet de voir comment évolue son travail à travers le temps, hein, parce que là on est chez Lost Odyssey, jeu de rôle sorti sur Xbox 360 en 2007. Alors c'était à une époque où Microsoft essayait encore d'intéresser le Japon. Ils pensaient que les Japonais pourraient jouer sur une machine qui ne serait pas japonaise. Ils ont mis un certain nombre d'années avant de se rendre compte que ça n'arriverait jamais.
L'avantage, c'est qu'ils pouvaient leur parler directement dans la même pièce.
Oui.
Aux joueurs.
Ils pouvaient se réunir ensemble. C'est ça. C'est intéressant de faire comme ça. Alors du coup, ils avaient pratiquement, enfin fortement poussé en tout cas pour que se monte le studio Mistwalker, qui était la réunion d'un nombre de pointures hallucinantes du jeu de rôle.
Ouais, c'était un peu la Dream Team à l'époque, c'était vendu comme ça. Ouais.
Ben c'était comme ça, et il se trouve que le résultat, Lost Odyssey, est un de mes jeux de rôle préférés de tous les temps. Et je dirais même que, en ce qui me concerne, pour moi, c'est le dernier grand jeu de rôle japonais qui est sorti.
Ah, carrément.
Bah ouais, j'adore ce jeu. Je trouve que les personnages sont super bien écrits. Pour une fois, on joue pas un gamin de 16 ans, enfin si ce n'est 14 dans la plupart des jeux de rôle qui va sauver le monde. Il y a de la maturité dans ce qui se passe, il y a pas mal d'idées. On est avec un ressort narratif au départ hyper basique avec un personnage amnésique. Et pourtant, même si on a vu ça un millier de fois, quand on progresse dans le jeu, on voit que ça a un sens, que ça a une utilité. Le gameplay était bien, la réalisation était superbe, et pourtant, le jeu n'a pas été très bien accueilli par une partie de la presse, dont je peux pas m'empêcher de penser au test risible qui avait été fait sur les amis de jeuxvideo.com. Allez le lire sur ça, c'est vraiment formidable, quoi. C'est la démonstration d'un jeu qui a été testé sans être joué.
Là-bas, comme je te pousse, ouais.
Et heureusement, malgré ce jeu finalement a peut-être souffert de la mauvaise réputation qu'il avait d'être produit par une Dream Team japonaise sur une console américaine, je pense que c'est vraiment aussi con que ça à la base, mais le temps a fait son office. Les gens qui ont joué à Lost Odyssey l'ont ultra majoritairement aimé, certains l'adorent même comme moi. On a fait une très bonne publicité de ce jeu-là, et au fil du temps, bah, heureusement, il a regagné sa réputation qu'il n'avait pas pu avoir dès le départ.
Vous avez fait un club aussi, hein, vous réunissez de temps en temps.
Ouais, c'est peut-être comme ça, je sais pas si énormément de gens y ont joué, mais il y a tellement de qualité dans ce jeu-là que pour un amateur de JRPG, je vois pas comment on peut passer à côté de ce titre. Bah, c'était mon petit cri d'amour du jour. Pour défendre cet ancien jeu, j'avais rédigé un test à l'époque pour Xboxygène qui était dithyrambique d'ailleurs.
Ouais, c'était marqué achetez-le en gros.
Ça aurait pu être marqué ça, ouais, ça c'était vraiment un coup de cœur quand j'avais joué à ça. Donc voilà, je tenais absolument à passer un morceau de ce jeu, surtout que le morceau que je viens de passer, oui, parce qu'on n'en a même pas parlé, je crois pouvoir dire sans me tromper que il déboîte. Et que l'ensemble de l'OST du jeu, sans surprise, n'est-ce pas, monsieur Uematsu, déboîte. Donc, Lost Odyssey, jouez-y, écoutez-le, c'est bien.
Et maintenant, un autre morceau qui n'a rien à voir avec Uematsu.
Oh,
Alors maintenant que cet escroc de Rhône a fini de parler d'Uematsu, et si t'as touché des sous, j'aimerais bien en avoir aussi. Hein,
parce... Eh non, Yewatsu.
Oh merde, ok, on la garde celle-là parce qu'elle est magnifique. Il est temps de passer à un jeu qui défonce, qui déboîte, d'un studio que j'adore, que j'aime d'amour, même s'il commence un petit peu à faire des trucs de commande qui puent un peu des pieds. C'est Platinum Games avec une musique de Bayonetta. Alors c'est comment, c'est composé par tellement de monde que je ne peux même pas vous dire. Il y a 150 titres sur la version, sur une version de sortie commerciale de la musique du jeu. Donc c'est juste n'importe quoi. C'est complètement fou, mais entre autres, il y a quand même Hiroshi, Yamaguchi et Masama Ueda. Moi, je vais me limiter à ça parce que c'est beaucoup trop long. Comme la musique d'ailleurs, parce que d'origine, je crois qu'elle fait 6 ou 7 minutes. Mais vous l'avez vu, on ne vous a pas imposé tout ça. Alors, est-ce que c'est nécessaire de vous dire à quel point Bayonetta, c'est génial, à quel point ça avait fait du bien à la sortie, parce que ça avait remis le beat'em all en avant, avec plein de nouvelles mécaniques, on pouvait gérer le temps, les ralentis, les contres, etc. On pouvait vraiment juste s'amuser comme ça et avancer dans le jeu, ou alors se prendre la tête pour faire du scoring. Voilà, j'adore Bayonetta, ça fait vraiment partie des jeux complètement fous de Platinum. C'est régulièrement des coups de pied en fait donnés à l'industrie du jeu vidéo. Bon, ça ne se vend jamais, hein, c'est un petit peu le point commun, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'ils sont là, on ne sait jamais comment. C'est un peu comme Woodball qui faisait des films des adaptations de films avec du pognon, on sait pas comment ils faisaient. Et bah Platinum Games continue à faire des jeux et mais c'est un petit peu mieux quand même que l'adaptation de Far Cry ou de Alone in the Dark.
Bon, c'est heureusement,
pas déconner. Ouais. Voilà, heureusement. Et donc c'est vrai que là maintenant ils commencent à faire du TMNT, du Transformers pour essayer de se nourrir. Mais alors ce qui est bien c'est qu'ils vont revenir très très bientôt avec la suite de Nier qui est quand même un plus gros jeu. Donc ça fait plaisir. Mais pour rester sur Bayonetta. C'est une bande son qui est ultra épique, qui est ultra puissante, et franchement, ça fait partie de ces jeux qui, même encore maintenant, avec la patte esthétique, sont hyper agréables à jouer. Alors dans la version Xbox 360, parce que la version PS3 était faite par un autre studio à l'époque, et c'était pas foufou, mais voilà, c'est un grand jeu, c'est une grande BO, donc jouez-y et écoutez-le.
Et alors maintenant, pour le morceau qui va suivre, on va passer à... C'est un jeu ?
Pour ceux qui ont l'oreille, vous l'aurez reconnu, ce n'est pas une musique de jeu vidéo, et non, c'est la petite surprise, la petite nouveauté, on va intégrer à nos thèmes, justement, une musique de film en rapport avec le thème principal de l'émission, et donc là on vient de s'écouter une musique de Matrix Reloaded, donc la musique Brawl, composée par Don Davis. Alors, la trilogie, hein, ça fait partie de ces films, de ces sagas décriées. Alors moi, je vais jouer carte sur table, les amis. J'adore la trilogie Matrix.
C'est vrai.
J'adore. J'avais déjà énormément aimé à l'époque. Ça faisait partie de ces films où il était sorti quasiment en même temps, je crois, que La Menace Fantôme. Et du coup, je l'avais vu avant La Menace Fantôme et je trouvais que le film avait pris... Alors, c'est des styles qui n'ont rien à voir, mais les combats avaient tellement moins de pêche dans La Menace Fantôme que le film avait souffert, même techniquement, etc. Donc, c'est un film qui avait marqué son époque, hein, clairement, au niveau esthétique. Il y avait des gens en cuir partout.
Ouais.
Dans tous les films, il y avait des gens en cuir partout dans la rue, t'avais plein
et qui marchaient au ralenti.
Et on, voilà, on marchait au ralenti en pensant qu'on pouvait éviter les trucs. Après, ils leur mettaient une baffe dans la gueule et ils se rendaient compte que ça marchait pas. C'était plutôt cool. Et ça fait partie, la musique Brawl, d'un, bah, c'est un combat de boss, forcément. Puisque vous avez Neo qui affronte Smith et un ensemble de clones hallucinants. Donc, limite, c'est comme si on jouait un Dynasty Warrior, mais dans un parc.
Ouais.
Les ennemis arrivent et tu les défonces un peu les uns après les autres. Alors, c'est une scène qui m'avait époustouflé à l'époque, parce que c'était les premiers moments où on mettait aussi des personnages en image de synthèse qui se voyaient presque pas, si on était de mauvaise foi. Mais ça se voyait un petit peu quand même. Mais c'était quand même.
C'est bien réalisé, ça allait vite, ça le faisait bien.
Tour de force technique, et surtout, malgré le nombre de choses qui se passent à l'écran, c'était une lisibilité, mais incroyable. Franchement, les Washo, ils arrivaient à te faire des scènes d'action, mais de dingo. Et donc, la musique est de Don Davis. Donc c'est un moment dans la suite de Matrix où le mec arrivait à jongler entre le côté électro et le côté musique classique. Et ça rend super bien. Autant dans le premier, on était vraiment sur une musique de film assez classique, même s'il avait réussi à imposer un thème qui est
quand même,
l'équivalent de Star Wars pour moi. Hein. T'as pas une note, c'est voilà, tu reconnais Matrix. Et c'est vrai que dans Reloaded et Révolution, il a vraiment trouvé son style. Et ça marque complètement l'univers du film, j'allais dire du jeu. Donc voilà, à force de parler de musique de jeux vidéo. Donc voilà, c'est une musique que j'aime beaucoup. Et c'est des films que j'aime beaucoup. Et par contre, bizarrement, c'est vrai que les films se sont fait un petit peu bâcher, hein. Ils se sont fait même défoncer sur le global par le grand public, par la presse. On peut dire ils se sont fait chier dessus, c'est poli, non? Mais
moi,
ils se sont fait chier.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, je déteste le troisième, mais j'adore les deux autres.
D'accord.
Et à vrai dire, quand le premier est sorti, j'avais même l'impression que la presse était plutôt bienveillante de façon exagérée.
Sur le tout premier ?
Sur le tout premier. Le deuxième, ça a été plus partagé. Et c'est moi pour ça que j'adore le deuxième, d'ailleurs, parce qu'il est complètement perché, le deuxième film.
Ah, ils se sont lâchés. Je pense qu'ils ont eu carte blanche, de toute façon.
Ouais, ça doit être ça. Mais du coup, c'est peut-être été un peu trop dur à comprendre pour Télérama, on va dire.
Même pour le grand public. Hein. Ouais. Il fallait pas laisser le cerveau à la sortie, comme on dit d'habitude. Hein.
Ouais, alors que c'est sur le troisième, moi, que j'ai des réserves.
Ouais, que moi, je trouve ça se conclut, tu vois, plutôt bien, justement. Il y a des scènes que j'aime beaucoup dans le troisième. Parfois un peu de longueur, hein, c'est clair, hein, de toute façon, il y a à boire et à manger, mais je trouve que au niveau de l'univers, au niveau de ce que ça raconte, c'est quand même relativement intéressant. Et pour rester sur Don Davis, bah, le mec, après Matrix Révolution, il a fait The Marine avec John Cena.
John Cena !
Voilà. Et depuis, bah, quasiment plus rien. J'ai essayé de fouiller un petit peu ce qu'il avait fait à côté, au niveau télé, au niveau cinéma. Et non, le dernier gros truc, c'est The Marine avec John Cena. Très voilà. Bien. Et ouais, donc après Matrix Evolution, c'est un petit peu dommage quand même. Alors on reste sur une grande saga de cinéma. Et on sort nos sabres.
Ok, je vous le concède. On peut pas dire que j'ai fait dans l'originalité pour cette première avec un thème de film aussi entendu que celui de Dark Vador. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le boss ultime de l'univers qui n'a jamais été fait?
C'est vrai. Je te l'accorde. Hein, je te l'accorde. T'es un feignant, mais je te l'accorde.
Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, il faut bien voir ce que ça représente parce que depuis l'image de Dark Vador, elle a été un petit peu ternie, notamment par la prélogie qu'on a fait quand même un petit peu un pitre. Mais pendant la première trilogie Star Wars, Dark Vador, pourquoi c'était le boss ultime? Parce qu'il dégageait de la puissance. À cette époque-là, on se battait pas comme dans Dragon Ball. On faisait juste un petit mouvement pour éviter un coup et on tuait les gens. Et basta. C'était ça, Dark Vador. Et quand t'es gamin et que tu vois la première scène de Star Wars et la première fois que tu vois Dark Vador, tu sens que c'est LE mec, LE boss, LE gars qui va tout défoncer. Et là, bon bah écoutez, John Williams quoi, hein, c'est comme ça, hein, on reconnaît...
John fucking Williams.
Quoi. John fucking Williams, exactement. Ah ouais, on a un morceau complètement typique avec un thème qu'au bout de deux notes, tu le connais par cœur, avec le petit temps calme habituel comme il fait toujours, puis une reprise du thème encore plus fort, mais là, tu sens la menace, tu sens la puissance, tu sens tout dans ces quelques notes, c'est pour ça qu'elles sont si célèbres, et c'est pour ça que même si c'est pas original, ça avait sa place ici à 200%.
On a eu du bol, heureusement qu'Uematsu faisait pas de musique de film.
Ouais. Allez, on range le DVD, on rallume les consoles et cette fois on va aller faire un petit tour du côté de l'horreur. On vient d'entendre une musique du combat final, bien entendu, de Resident Evil 2, sorti en 1998 et composé par Masami Ueda, Shusaku Uchiyama et Siyun Nishigaki. Alors je vais être tout à fait honnête, je ne suis pas très fan des musiques du deuxième épisode de Resident Evil et même je dirais de Resident Evil dans leur ensemble.
Ouais, j'allais dire, ouais. Hein, je suis assez d'accord.
C'est des musiques qui soutiennent bien l'action pendant qu'on joue, mais à écouter qu'album, c'est pas forcément génial.
Bah, je crois que je retiendrai moi la safe room vraiment dans les Resident Evil, c'est un peu les passages que j'attends pour voir les variantes. Mais c'est vrai que sur le global, les musiques des Resident Evil, bah ouais, c'est un peu quelconque.
C'est ça, j'en garde pas beaucoup. Bah, y a la safe room, j'aime bien la pièce dans la cave avec le requin et l'espèce de petite musique désaccordée.
Mais c'est bon, c'est oui.
Mais c'est trois notes après, hein.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis, au gré de mes écoutes, j'ai entendu ce morceau dans le combat final de Resident Evil 2. Et ce morceau, par contre, je l'adore. Vraiment. Parce que je trouve qu'il retranscrit très bien l'ennemi qu'on est en train d'affronter. Alors je sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est une grosse bestiole, on la dégomme et puis elle commence à se transformer, on la redégomme et elle se retransforme. La musique qu'on vient d'entendre là, c'est sa troisième transformation, et avec ces cris qu'on entend dans la musique, ça donne un résultat très bigarré, un petit peu bordélique, mais j'ai envie de dire aussi bordélique que la bestiole qu'on est en train d'affronter. Ça marche super bien. Ça rend le tout assez étrange. En général, quand on arrive à ce moment-là, on n'a plus beaucoup de munitions. Donc ça commence à être un petit peu tendu dans le jeu. Bref, voilà, c'est une pépite pour moi dans l'OST de Resident Evil 2, qui par ailleurs est pas si fantastique que ça. Alors par contre, il y a une autre série qui, elle, a une réputation en or sur ses OST, et là, je voudrais dire que c'est franchement mérité.
Akira Yamaoka, Silent Hill, mais j'ai envie de dire, Rhône, ça suffit, cœur avec les doigts.
Cœur avec les doigts.
Cœur avec les doigts. Alors, d'accord, c'est le combat final, encore une fois, mais de Silent Hill 3. Alors, c'est pas mon préféré de la série, ça reste un bon jeu pour moi, parce que moi, je surkiffe, j'idolâtre à un point que vous ne pouvez pas imaginer, mais je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, la musique de Silent Hill 2, et même Silent Hill 2 tout court, qui pour moi est un jeu parfait. Enfin, c'est un des rares jeux où vraiment, j'ai envie de dire, c'est parfait. Et donc là, on vient d'écouter donc une musique de boss. Forcément, c'est torturé. Forcément, avec Yamaoka, bah, on est sur des mélanges un petit peu industriels, rock, etc. Mmh. Donc c'est une série qui a commencé sur PlayStation 1. Et justement, Silent Hill 3 arrivait à faire le raccord avec les personnages sortis sur PlayStation 1 avec Harry Mason, puisqu'on joue sa fille, dans ce troisième épisode, qui d'un seul coup se trouve justement mélangé à l'univers de Silent Hill. Elle va essayer de savoir un petit peu pourquoi, etc. Donc c'est une série que moi j'aime, surtout justement pour ces deux premiers épisodes, même si le 3 je le trouve très sympa à parcourir. Le 4, on en discutait off avec Rhône. Là, c'est un jeu qu'on aime bien parce qu'il a tenté de nouvelles choses, parce que justement le problème des séries quand on arrive au je sais pas combien épisode et qu'il faut réussir à utiliser les mêmes thèmes, c'est pas évident.
Bien dur.
Voilà, donc il a essayé de faire un petit peu autre chose. Et après patatras, hein, j'ai envie de dire.
J'aime bien Downpour, moi.
Bah justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est patatras sur quelques épisodes, je crois qu'il y en a eu un ou deux, ou surtout je crois que ce fait par Double Helix, qui était vraiment catastrophique, où ils ont essayé de faire de l'action là où il fallait pas, enfin c'était assez catastrophique. Et d'un seul coup, alors non seulement le remake sur Wii, très sympa, parce qu'il reprend vraiment les bases du premier, mais en transformant complètement l'ambiance avec un système de psychiatre qui fait évoluer le jeu, donc ça c'est très très sympa, je vous le recommande. Et donc il y a eu Silent Hill Downpour, sorti vraiment en catimini, parce que là où nous, enfin quand je dis nous, c'est moi et Rhône,
on
quand on parle Silent Hill, voilà, on l'attend, on se dit tiens, c'est quand même un gros jeu, c'est quand même une grosse franchise de Konami. Et ben au final c'est sorti un petit peu à l'arrache, c'était un studio je crois suédois qui a développé le jeu. Ils avaient plein de bonnes idées. Alors, peut-être qu'un jour on les développera, je pense, dans une spéciale Silent Hill. Pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Surtout que l'OST du jeu était pas mal du tout, bien que pas faite par Akira Yamaoka.
Ouais. Et ça apporte justement, même au niveau justement de l'idée qu'ils ont apporté sur Silent Hill, vraiment la ville de Silent Hill plus la musique, il y a un côté mélancolique dans ce Downpour que moi j'aime beaucoup et qui est complètement différent des autres jeux. Donc je ne peux que vous conseiller tout ça, mais en attendant, voilà, Silent Hill 3, Kira Yamaoka, c'est un peu indissociable et c'est de la balle. Attention les mecs, si vous avez des tatouages, c'est le moment de les montrer à tout le monde. On vient de s'écouter Mecha Biker de la bande originale de Double Dragon Néon, sorti en 2012, et j'ai un mea culpa à faire. Pour ceux qui connaissent un petit peu les vidéos que j'ai fait à l'époque sur YouTube, les trois personnes qui ont regardé mes vidéos, maman, papa, tout ça, quand j'ai testé la première fois Double Dragon Néon, j'ai détesté. J'ai eu un rejet absolu. Alors allez savoir pourquoi. Enfin, il y a pas mal de choses qui m'avaient, je sais pas, j'avais du mal à me faire au design. Qui, pourtant, je le trouve très cool maintenant, bizarrement. Aux animations et en fait, j'avais joué à une démo sur un premier niveau et je me suis rendu compte que le jeu avait énormément à offrir sur la durée. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses à débloquer justement pour pouvoir faire des meilleurs coups, etc. Mais avec un petit peu d'investissement pour y avoir rejoué par la suite, le jeu a beaucoup à offrir, est très fun à jouer et surtout. La bande originale défonce complètement. Bah forcément, ceux qui nous écoutent, vous savez qu'on aime la canon, qu'on aime les années 80 et qu'on aime tous ces délires-là. Et là, ouais, ça envoie le pâté. Les reprises des musiques d'époque sont excellentes. Il y a une modernité. Modernité, c'est compliqué en parlant d'années 80 au niveau des sons. Mais il y a un mélange entre des sonorités vraiment, on va dire, de consoles de l'époque avec des grosses guitares FM. Qu'il y avait dans les productions de Sly les années 80, hein, les Over the Top, les Rocky 4, 5, 3 et 4, pardon, pas le 5. Donc c'est vraiment des sonorités que moi j'adore, et du coup le compositeur Jake Hoffman a fait un boulot incroyable, mais avant de revenir sur le parcours de cet excellent compositeur, Rune a des petites choses à dire aussi sur cette BO.
Eh ben oui, parce que alors moi je connais pas du tout le jeu, hein. Alors c'est Creepers qui en le sélectionnant m'a poussé à poser une oreille dessus, et je dois dire que c'est assez étonnant parce que ce qu'on vient d'entendre pour moi c'est exactement le même son que ce qu'on pouvait entendre dans beaucoup de jeux d'action sur les consoles en fin d'année 90, notamment vers 97-98 et en particulier sur Saturn plus que sur PlayStation. Parce que c'est la musique typique des jeux d'arcade de cette époque.
Ouais, les grattes et tout ça, tous les trucs assez nerveux, assez péchus. Hein.
Oui, et puis pour le coup, on découvrait aussi la capacité de stockage un peu plus étendue du CD. Alors, on y allait un petit peu plus sur des musiques qui étaient longues, des choses comme ça. Et j'ai vraiment eu la sensation d'entendre une musique que je connaissais. Alors, finalement, il se trouve que je confondais avec un shoot'em up sur Saturn, comme il y en a des tas sur Saturn. Mais c'est assez intéressant de voir qu'on parle d'un jeu qui est sorti en 2012. Qui s'inspire des musiques des années 80 au cinéma et en même temps des musiques fin 90 de l'arcade. Quoi. C'est un sacré beau mélange quand même.
Et donc c'est un beau mélange qu'on doit donc, à Jake Kaufman, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un compositeur que moi j'apprécie beaucoup et que je suis depuis maintenant quelques mois, même quelques années. Puisque en fait en gros le mec fait aussi de la chiptunes à côté, on peut voir sur son compte Bandcamp. Il y a pas mal de choses qu'il a composées à côté du jeu vidéo et il compose depuis 2000 sur beaucoup de supports. Il a commencé par de la GBA avec des musiques comme Godzilla, comme quoi hein, ça mène un petit peu à tout. Il a fait aussi du jeu mobile, et il a vraiment explosé. Sorti en 2012, à l'époque de sortie de Retro City Rampage, pour ceux qui connaissent. Il avait fait du super bon boulot dessus, il a fait Mighty Switch Force, DuckTales Remastered, il a fait une version bis, on va dire, de Crypt of the Necrodancer, et bientôt il va aussi composer pour Bloodstained, un jeu qui ressemble un petit peu à Castlevania, qui a été kickstarté, qui a fait un malheur sur Kickstarter d'ailleurs, et qui va sortir normalement l'année prochaine. Donc voilà, c'est un compositeur qui cartonne sur beaucoup de jeux indépendants. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur ses compos, bah, n'hésitez pas à aller sur son Bandcamp, il y a plein de choses à écouter, à acheter, etc. Enfin voilà, j'adore ce mec.
Allez, on reste dans les biscottos. Et encore une fois, Ron nous ramène chez Sega, salaud.
Comment je pouvais me passer d'un morceau de Streets of Rage 2 ?
Forcément.
Ah, forcément, mais en même temps, je crois que t'auras du mal à m'en vouloir. Hein.
Ouais.
Là, c'est le morceau Max Man. Alors, vous savez, c'est dans le combat final, bien sûr. C'est le moment où on va se battre contre le sbire du boss, le mec qui ressemble un peu à Shiryu. Là. Et quand vous entendez la musique, alors elle s'énerve la musique, elle devient de plus en plus syncopée, et si vous avez joué à Street of Rage, vous savez que ça correspond, je sais pas comment ils font, c'est presque de la magie, au moment où le gars il va vous enchaîner toute sa série de coups que vous ne pouvez pas parer. Donc c'est toujours assez agaçant. Moi j'adore cette musique, j'adore toutes les musiques de Street of Rage 2 composées par Yuzo Koshiro. Vous le savez déjà, c'est un album qu'il faut écouter. Si vous l'avez pas encore fait, c'est un scandale, il faut vraiment le faire. Et dans Street of Rage 2, on en a bouffé de la bonne musique pendant tout le jeu. Et quand on arrive au boss, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, faut pas se louper. Faut que la musique, elle déboîte, faut qu'elle arrive à foutre une sacrée pression. Et je trouve que ça marche très très bien avec avec ce morceau. C'est l'ennemi le plus dur du jeu, de toute façon, ce personnage. Donc quand on y joue en difficulté ultra difficile, enfin le maximum qu'on peut faire, on peut perdre une vie à cet endroit-là. Donc la pression fonctionne. Et puis de toute façon, c'est Street of Rage 2, et puis c'est tout, ça devrait être obligatoire à chaque podcast, et voilà.
Même moi je dis rien, j'ai le vinyle. Allez, on se barre de la Mega Drive, mais comme on aime bien faire revenir les copains, Akira, c'est reparti!
Et oui, Akira est de retour. Akira Yamaoka, monsieur Silent Hill, n'a pas fait que les musiques de Silent Hill. Faut pas déconner, sinon il bosserait même plus beaucoup aujourd'hui.
Oui, c'est le pauvre.
Donc, il a fait aussi quelques autres trucs, et à chaque fois, c'est bien. Et je vais vous faire un aveu, la musique qu'on vient de passer, c'est celle que je préfère de ma liste. Voilà, ça y est, c'est dit.
Oh, carrément, avec tout ce qu'on a mis.
Carrément, donc ça vient du jeu Killer is Dead, c'est le morceau Fire on the Wind. Forcément, ça se passe vers la fin, hein, je vous cache rien. C'est sorti en 2013 sur Xbox 360 et PS3. Alors, c'est un jeu très étrange, comme d'habitude avec Grasshopper, puisque ça vient de chez eux.
Ouais, c'est du Souda 51, je crois, Killer is Dead.
Exactement. Ouais. Alors donc, Grasshopper, hein, c'est comme nos amis, hein, c'est des jeux qui se vendent pas.
Ouais, et pourtant, ça fait partie aussi des chaînes de Platinum. Bah, moi, j'aime bien leur prod, parce qu'ils ont toujours une petite patte un peu particulière.
Exactement. Moi, je suis un très gros fan hein, de leur sortie. Alors, à chaque fois, c'est pareil, il y a une ambiance de fou, mais c'est souvent assez discutable au niveau du gameplay, il faut bien le reconnaître. Killer is Dead ne fait pas exception. C'est un jeu qui a une patte graphique incroyable. C'est vraiment super beau. Il y a des choix. Enfin, c'est super beau, pas techniquement, entendons-nous bien. Mais au niveau du style, c'est absolument génial. Il y a beaucoup d'originalité. Mais c'est assez vite chiant à jouer. Faut être honnête. Sauf pour une chose, les boss. Et ça tombe bien, puisqu'on est exactement dans le sujet. Donc pour les boss là, ça déboîte, ils sont énormes, les combats sont complètement délirants, et bien sûr à chaque fois qu'on abat un boss, on peut dire Killer is dead.
Yeah.
Donc voilà, c'était mon morceau préféré de la sélection. Vous avez entendu, ça met une énorme pression cette musique, mais en même temps ça donne la patate, je trouve, ça donne vraiment envie de rentrer dedans, de foncer sur le boss, de le laminer. Voilà quoi, ça met dans un état second, comme on disait pour Hotline Miami, c'est violent, donc c'est bien, il faut y jouer quoi. Bon, on est donc dans une émission spéciale boss, tiens, et si on parlait d'un jeu dont les boss et le concept ?
Et ouais, c'est un jeu avec plein de boss, mais tu sais c'est quoi le plus fou, Ron?
Non.
Eh ben c'est même pas le combat final. Et ouais, je suis un vrai malade, je suis un vrai ouf, je casse le concept de l'intérieur, je le prends, je le mélange, je le fracasse complètement. Et on va parler donc de Fury, une petite claque sortie en 2016 sur PlayStation 4 et PC. Donc on a écouté la musique, alors je sais pas si je dois le faire à l'américaine ou si je dois le faire à la française. La musique c'est 624, composée par Danger. Et donc un peu comme Hotline Miami, la bande originale de Fury est composée par plein de superstars de la Soundwave. C'est un peu les Expandables de la Soundwave, parce que c'est, mais ça marche très bien. C'est-à-dire c'est un peu à la mode, etc. Patati patata. On va pas cracher dedans quand ça fonctionne bien. Et donc Fury, c'est un jeu, donc on l'a dit, où on affronte que des boss, avec entre chaque combat des passages un petit peu plus planants, où on avance comme ça avec une histoire qui se raconte avec une voix off. Alors c'est une grosse surprise parce que alors déjà c'est français, c'est fait par je ne sais plus qui parce que comme toi je ne prépare pas complètement les émissions.
Ah oui merci.
et je sais juste qu'ils avaient fait en fait un jeu, un petit beat'em all sur tablette type iPad etc. et aussi sur smartphone. Alors un petit jeu, un petit beat'em all qui marchait très très bien. Et donc là ils ont sorti ça, moi je m'attendais pas du tout à ce jeu, c'est sorti il y a quelques temps, c'était gratuit avec le PlayStation Plus, donc du coup bah gratuit. Moi, je joue, forcément. Oui. C'est partie des petites perles qu'on peut découvrir avec ce système-là. Et donc, le jeu mélange à la fois le beat'em all et le manic shooter. Donc, manic shooter, pour ceux qui savent pas, c'est les beat'em all. Les
shoot'em
up avec les, voilà, plein de boulettes dans tous les sens. Et donc, ça joue avec nos réflexes, ça joue avec l'apprentissage des patterns, un petit peu comme à l'époque, hein, où il fallait vraiment, pour les boss, savoir quel mouvement ils allaient faire par rapport à tel petit détail, etc. Donc c'est un jeu qui est extrêmement dur, je ne vais pas vous le cacher, mais par contre il est extrêmement gratifiant quand on arrive à battre justement ces fameux boss, parce qu'à force de mourir on commence un petit peu à plus faire attention et pas se dire voilà je vais taper là ça fonctionnera, généralement ça ne fonctionne pas, hein, voilà c'est comme ça. Et donc voilà c'est le coup de cœur de ce début d'année pour moi, ça fait partie de pour l'instant des meilleurs jeux que j'ai fait cette année. Et pourtant il y a quand même des bonnes choses je trouve sorties pour l'instant et des bonnes choses annoncées à la fin de l'année, mais voilà il fait partie de mon top pour l'instant des jeux de 2016, donc je vous le redis, ça s'appelle Fury et donc la BO elle déboîte, faites-moi un vinyle s'il vous plaît. Allez on change pas une équipe qui gagne, on reste dans l'indé. Ceux qui suivent un petit peu la scène indépendante, il y a un jeu qui a énormément fait parler de lui en fin d'année dernière, c'est Undertale. Je sais pas si t'en as entendu parler, Ron.
Bah si, forcément.
Undertale, donc un jeu fait par une seule personne, Toby Fox, il a tout fait. Il a absolument tout fait, le mec, sur, je crois, depuis 2013, il travaillait sur ce jeu. Il y a eu une campagne de financement participatif, comme ça se fait énormément. Et le jeu avait commencé à faire parler de lui parce qu'il avait atteint des scores astronomiques Sur Mediacritic, je crois qu'il avait quasiment atteint le 10 sur 10. Donc voilà, après du coup il y a eu le débat, hein. Est-ce que c'était mérité, est-ce que c'était pas mérité, les mecs sont commencé à arriver pour dire que c'était de la merde, ou non c'est génial, etc. Mais on n'est pas là pour parler de ça parce que je n'y ai pas joué. Eh oui, je ne pourrais pas vous dire si c'était génial ou pas, c'est ça, je suis un escroc, un véritable escroc. Mais en tout cas la musique est excellente. J'ai vraiment découvert pour préparer l'émission, parce qu'il y a plein de monde qui en parlait justement sur Twitter, etc. pour dire que c'était même une BO qui était, où le jeu était tourné autour de sa BO, parce que franchement, pour avoir écouté justement tous les morceaux de la bande originale, et ben je trouve ça incroyablement bon. Je sais plus si le mec était à base musicien, mais il a fait un boulot vraiment remarquable. Cette musique, elle est folle. Enfin, je trouve qu'au niveau du rythme, bah, c'est top. Il y a vraiment une mélodie qui nous rentre dans la tête. Il y a un mélange de son chiptunes, de riffs de guitare. Voilà, c'est très 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 bon boulot. Pour moi, c'est presque la musique de boss parfaite. C'est-à-dire qu'elle accompagne complètement le combat. Alors, je crois que la particularité du jeu, c'est que justement, ces combats, bah, je crois que le héros est gentil. Je crois qu'à la base, c'est quelque chose de non violent. Donc, on peut essayer d'affronter les boss pour leur demander de ne pas attaquer. Enfin, peut-être que j'ai des conneries, mais je crois que ça tourne autour de ça. Et c'est ce qui a fait un petit peu parler de ce jeu-là. En tout cas, un jour, j'essaierai Undertale, mais pour l'instant, voilà, je surkiffe sa bande originale.
Et maintenant, un jeu qui va faire fondre votre cœur de pirate.
Avec mon cœur de pirate. Et ouais, c'est cœur de pirate qui a fait la musique de Child of Light, sorti en 2014, alors qu'il y a un jeu de rôle hyper sympa, pas très difficile, mais avec une jolie patte graphique, les personnages parlent en vers, c'est une jolie petite histoire. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé. Et cœur de pirate, c'est bien. La musique de Child of Light est carrément fantastique. Comme je l'adore, j'adore cette OST. Je l'écoute assez régulièrement. Et j'aime notamment beaucoup cette musique de ce combat un peu final, faut bien le reconnaître. Hein, on va pas se mentir. Et notamment parce que j'aime beaucoup quand dans des jeux qui ont des univers assez mignons, se pointe une musique qui, elle, te met la pression, qui est limite flippante, quoi. Le contraste est super fort avec tout le reste de ce qu'on a entendu jusque-là. Dans Child of Light, c'est surtout des notes de piano, c'est des mélodies avec peu d'instruments, avec des partitions très claires. Et là, d'un seul coup, on a le truc qui arrive, qui est beaucoup plus lourd, qui est bien plus flippant. Et le contraste renforce la force de la musique. Et du coup, l'air de rien, ouais, ça met la pression quand on est en train d'affronter ce boss final. Donc j'aime bien le jeu, j'aime bien cette musique, donc voilà, je me dis tiens, allez, on va le remettre, hein. On a qu'à faire ça.
Attention, accrochez-vous à vos salopettes, on va parler d'un Mario Bros.
Ah, ça te fait plaisir que ce soit moi qui parle d'un Super Mario. Hein.
Ah, mais trop. Ouais. Trop.
Eh ben oui, c'est vrai, voilà, là c'est Super Mario Galaxy. Bien sûr, on est dans le combat final, comme d'habitude.
Escroc.
Et ben... Donc ça a été composé par Koji Kondo et Maito Yokota. Alors, si vous écoutez nos émissions depuis quelque temps, vous savez que je suis pas un énorme fan de Mario.
Il n'a pas vraiment de goût, le bonhomme. Mais bon,
et c'est voilà, bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais par contre, je reconnais une chose au Mario, c'est qu'il y a souvent des musiques bien cool dedans. Alors même si c'est vrai, c'est un petit peu toujours pareil, à chaque fois, on peut sortir des perles. Et Super Mario Galaxy, celui-là, je le marque d'une pierre blanche. Parce que son OST est vraiment superbe.
Orchestral. Je crois que c'est la première fois que c'était de l'orchestral dans un jeu Nintendo comme ça, et ça envoie le pâté.
Exactement, ça envoie le pâté. C'est les musiques, elles sont amples, elles arrivent à être variées. Alors encore une fois, c'est un peu un reproche que je fais au Mario d'ordinaire, mais pas dans Super Mario Galaxy. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et un peu comme je l'ai dit pour Child of Light avant, là on arrive à une bataille décisive et on a une musique qui contraste avec l'univers du jeu dans son ensemble et qui du coup gagne énormément en efficacité. Déjà en valeur absolue quand on l'entend comme on est en train de le faire là pendant cette émission, ça fonctionne très 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 bien. Alors quand on joue, ça fonctionne encore mieux. Donc voilà, retenez la date, hein, je dis du bien d'un Super Mario.
attention, marqué d'une pierre blanche cette émission. Rhône a dit, mais c'est génial les musiques de Mario, j'aime plus ça encore que Street of Rage 2.
Oh, mais n'importe quoi.
Ah non, bon, t'as pas dit ça ?
Allez. Là, je vois que tu pars un petit peu en vrille. Hein. Il est temps qu'on s'approche de la fin de l'émission. Et on va terminer par une musique qui est mythique pour énormément d'amateurs de musique de jeux vidéo.
Bah, j'ai un problème, Rhône.
C'est quoi?
Déjà, c'est dur à dire.
C'est vrai, quoi?
Nier.
Ça me fait penser au Monty Python, moi.
Nier. Alors, on vient écouter de la musique de Nier. The Dark Colossus Destroys All. Et j'ai un deuxième problème, Rhône.
T'as décidément?
J'y ai pas joué.
Aïe.
Ouais. Donc, on est en train de conclure avec une musique auquel j'ai pas joué au jeu. Mais par contre, la musique, elle est quand même super cool. Et on en discutait encore une fois, en off, tout à l'heure. Et donc, Nier, ça fait partie de ces jeux, alors à la fois mal aimé par la presse quand c'est sorti. Ça a été accueilli un petit peu fraîchement, mais alors pas par tout le monde, c'est assez mitigé. Par contre, qui est surlevé, on va inventer un terme, surlevé par les joueurs. Voilà, que ce soit en termes de système de jeu, d'histoire, il semblerait que l'histoire soit très très profonde, hyper sombre d'ailleurs, et donc surtout au niveau de la bande originale, donc du coup qui est adorée par énormément de fans de jeux de rôle. Et du coup, je t'ai demandé, je dis, Rhône, est-ce que tu as joué à Nier? Est-ce que tu kiffes autant autant que les autres ce jeu et la musique? Et là, tu m'as dit
bof. J'ai dit bof. Et oui, j'ai essayé de jouer à ce jeu-là et je dois avouer que je ne suis pas allé très loin. Alors, pour une raison qui avait été évoquée à sa sortie, mais qui, moi, m'a posé un problème, j'ai vraiment été rebuté par les choix esthétiques du jeu. C'est un jeu que, personnellement, je trouve vraiment très laid. Pas techniquement, hein, dans ses choix. Quoi. Et j'ai du mal à jouer sur la longueur à un jeu que je trouve laid. Donc j'ai pas grand chose à dire du jeu, mais par contre on notait immédiatement que la musique était excellente. Du coup, eh bien, j'ai pris le disque, j'ai écouté, et là aussi j'ai un avis assez mitigé. Pour moi, c'est une OST qui alterne des morceaux absolument formidables, et celui qu'on vient d'entendre, je le mets dans cette catégorie, je trouve que c'est vraiment excellent. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de redondance dans cette OST. Il y a des difficultés à faire varier des thèmes. Donc on a le même thème qui est répété énormément, mais il faut vraiment être attentif pour trouver la variation et les morceaux sont trop longs. Ce qui fait que peut-être qu'en jeu, ça fonctionne à fond les ballons. J'ai pas de doute là-dessus. Mais à écouter en tant qu'album, là, je dois dire que j'ai des réserves sur Nier.
Alors du coup, c'est là où on voit un petit peu l'intérêt de cette émission quand on la prépare, c'est que ça nous permet de découvrir vraiment des musiques de jeux auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Et quand on sort un petit peu de nos sécurités de type de jeu qu'on connaît complètement, moi j'ai découvert Nier, j'ai découvert sa BO, et c'est vrai que j'ai énormément aimé ce morceau. Donc on a décidé de vous faire partager pour conclure, malheureusement, cette émission.
Et oui, bon, il est temps d'arrêter quand même, hein, parce que vous avez bien noté, si vous avez l'habitude de nous écouter, on a fait un petit peu long cette fois-ci.
C'est super long, on a été bien bavard.
Oui, alors voilà, on était content de se retrouver, on avait une jolie sélection, on avait plein de choses à raconter, alors c'est vrai, on a parlé, on a été bavard, mais j'espère que ça vous a pas empêché de passer un excellent moment avec nous.
Ouais, n'hésitez pas à nous le dire comme d'habitude hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre amour sur les réseaux sociaux à vos amis, à vos familles, à qui vous voulez, mais en tout cas voilà, partagez cette émission et surtout pensez, vous savez, à mettre comme dans Mario les petites étoiles, bah pensez à mettre les petites étoiles sur iTunes, ça nous permet de briller un petit peu justement sur tous les services de partage justement pour être un petit peu plus connu. Voilà, ça nous fera plaisir. En tout cas, moi aussi, j'espère que vous avez passé un super moment, c'est vrai. On a parlé beaucoup, c'est vrai, on était content de se retrouver. On est content de vous retrouver aussi et de vous distribuer un petit peu comme ça plein de nouvelles musiques de jeux vidéo. On a plein de choses, on vous l'a dit, en préparation pour la suite. On espère, et faites-nous aussi un retour sur la décision de mettre des musiques de films un petit peu au milieu, parce que c'est un petit peu nos deux amours, à moi et à Rhône.
Oui.
Donc n'hésitez pas à nous dire voilà, si vous avez kiffé cette idée. Et je pense, Rhône, qu'il est temps de se dire au mois prochain.
Au mois prochain.
À bientôt, les amis.
Salut.
Ciao.